Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Salut la team podcast, ici Pauline Agneau et vous êtes sur une leçon Kesako. Eh bien les leçons, vous le savez si vous êtes des habitués, ce sont ces fameux épisodes où j'essaie de répondre tant bien que mal à vos questions. Alors ce sont des questions en général sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais pas que, j'ai aussi de temps en temps, et j'aime bien ça d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me les envoyer, des questions de développement personnel. En l'occurrence aujourd'hui, on est plutôt sur une question d'entrepreneuriat et je suis avec Marie-Caroline qui est la fondatrice, la nouvelle fondatrice de Off Grid, O2FGRID-6 EcoDesign, qui est donc une nouvelle marque de design inspirée, si j'ai bien compris, de l'histoire de son grand-père. Et Marie-Caroline a un petit souci, donc elle est en train de se lancer, elle est jeune entrepreneur et me demande comment faire sa place dans un marché du luxe ou un marché haut de gamme quand on démarre son activité. J'ai essayé de convaincre Marie-Caroline de passer par une stratégie de niche dans le cadre du démarrage de cette activité pour une raison simple, c'est que le marché du luxe est un marché dans lequel il y a énormément de très gros compétiteurs, un marché qui est très important, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup de grandes maisons qui existent et qui font, je dois dire, très bien les choses. Et donc, c'est la stratégie que j'ai adoptée avec Gemio quand je l'ai lancée il y a maintenant 10 ans. Commencer tout simplement par s'adresser à une cible qui est mal comprise par le marché. Donc, tout ça pour dire, parler à des gens qui n'ont pas vraiment trouvé chaussure à leurs pieds via une activité autour d'une niche. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire. J'espère aussi sincèrement que cet épisode vous sera utile. Pour poursuivre la conversation, n'hésitez pas d'ailleurs à aller donc sur le site d'Offgrid. Et puis pourquoi pas, on évoque dans le courant de cette leçon la formation que j'ai faite sur le thème du persona, donc la formation que je fais via le cadre de Demian. Vous le savez, mes formations, Demian Éducation. Bien sûr, je vous invite à aller consulter la formation sur le persona, comment cibler efficacement ses clients. C'est le titre de cette formation. Si jamais ce sujet vous intéresse et si vous sentez que vous avez vous aussi besoin d'être aidé pour réussir tout simplement en fait à démarcher mieux vos clients et puis à réussir à les cibler plus efficacement. Bref, je ne vous fais pas ma pub, mais sachez en tout cas que ça existe et que c'est là pour vous aider. Ça se passe donc sur Demian, Demian.education. C'est tout pour aujourd'hui, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie-Caroline.
Bonjour Pauline.
Marie-Caroline, est-ce que tu peux du coup commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton plat préféré peut-être, et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon.
Alors, je me présente, je suis Marie-Caroline, j'ai 24 ans, mon plat préféré ce sont les pâtes. Et donc je viens d'être diplômée d'une école de commerce et à la suite de mon alternance, j'ai décidé de créer Off Grid, qui est une jeune maison de mobilier éco-design indoor et outdoor, made in France et donc par conséquent haut de gamme.
Alors Off Grid, O2FGRID, histoire qu'on aille tous voir le site, c'est ça?
Oui, c'est ça. Off Grid tiré du 6 éco-design.
Très bien. Eh bien, écoute, ça sera amplifié et diffusé.
Merci.
Donc, pour le moment, qu'est-ce qui t'amène ici?
Alors, donc, ce qui m'amène ici, c'est que pour le moment, donc, moi, c'est une histoire un petit peu familiale. Donc, j'ai décidé de reprendre le fauteuil qu'avait dessiné mon grand-père à la fin des années 50 et de le mettre un petit peu au goût du jour. C'est un objet qui fait partie de ma famille depuis très longtemps et que personnellement j'ai toujours connu. Donc c'est ce qui m'aide à me sentir assez légitime aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas toujours suffisant. Donc je suis très ravie d'ailleurs, très curieuse d'aborder avec toi le sujet suivant, c'est-à-dire de comment faire sa place sur un marché haut de gamme quand on démarre son activité. Je pense que c'est un sujet que tu maîtrises assez bien.
En tout cas, je l'ai vécu. Ouais. Le maîtriser, c'est une autre paire de manches, parce que malheureusement, je suis pas sûre qu'il y ait une seule recette magique, mais en tout cas, c'est une question qui est intéressante. Parce qu'effectivement, le souci, on va dire, des marchés haut de gamme et des maisons de luxe notamment, c'est qu'ils investissent énormément en communication, et donc réussir à émerger face à des marques qui investissent énormément en communication, c'est pas facile. Et puis d'autre part, ils investissent aussi beaucoup sur le produit, donc en gros sur la fabrication, sur la qualité. Et du coup, là aussi, en fait, pour se différencier, quand on est sur un marché haut de gamme, il faut avoir une valeur ajoutée, si tu veux, supplémentaire sur le produit. Mais ça n'est pas impossible, la preuve en est avec Gémio. Mais du coup, si tu veux, je pense qu'il y a une réalité, c'est que comme c'est très concurrentiel, qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font ça fort bien depuis très longtemps, il faut en fait, en réalité, se poser une question simple, c'est qu'est-ce que je vais apporter de différent ? À quelle souffrance est-ce que je vais répondre ? Parce que le problème, tu vois, de beaucoup de personnes qui essayent de finalement se lancer sur le monde du luxe et sur ces produits-là, c'est qu'en fait, ils aiment le luxe, et ça, je le comprends. Ils ont une vision produit, ils ont un produit un petit peu différent, on va dire, qu'ils ont en tête. Mais je dirais que c'est peut-être pas suffisant d'avoir uniquement, si tu veux, un design qui est bien, hein, parce que il y a tout ce qu'il y a autour qui compte, donc la qualité bien sûr, mais également la manière en fait de se faire connaître. Et donc je dirais qu'il faut réfléchir plus profondément à son business model et à sa place et à sa plateforme de marque pour se dire ok, concrètement, quelles sont mes forces et quelles sont vraiment les différences réelles. Et là-dessus, il faut avoir beaucoup d'honnêteté intellectuelle avec soi-même. Quelles sont les différences réelles qui font qu'un client va venir chez moi plutôt que chez un autre. Et là-dessus, une fois de plus, j'insiste sur l'aspect honnêteté intellectuelle, parce qu'en fait, on a tous tendance à vouloir être différent et à se dire « oui, moi, je vais être un peu moins cher, je vais être un peu plus green, je vais être un peu plus ceci, cela ». Mais il faut, si tu veux, se mettre à la place du consommateur et se dire qu'entre une marque qui est connue, qui est bien implantée et une nouvelle marque, le consommateur, naturellement, va aller vers quelque chose qui est plus rassurant parce qu'il est plus connu. Ce qui va faire qu'il va oser franchir le cap d'aller vers une marque qui est plus jeune, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Et donc, si tu veux, cette réalisation-là fait que il faut se forcer soit dans son business model, soit dans son produit à faire les choses différemment. Si je reprends l'exemple de Gémio, nous, notre différence, elle était très forte, c'est qu'on était la seule marque à proposer une fabrication sur mesure, si tu veux, sur nos modèles, pour que les clients puissent choisir la pierre et le métal de leur choix. Ça nous permettait en plus de proposer un meilleur rapport qualité-prix, puisque comme le stock coûte très cher en joaillerie, eh bien le fait de fabriquer sur mesure nous permettait en fait tout simplement d'avoir, et nous permet toujours d'ailleurs, d'avoir un en fait moins de marge et d'avoir donc, on va dire, ce que j'appelle un meilleur rapport qualité-prix qu'une marque qui va fabriquer beaucoup en quantité de stock et ensuite devoir le garder pendant longtemps avant de réussir à le vendre. Donc tout ça pour dire que, si tu veux, on a fondamentalement dû repenser le business model de la joaillerie pour avoir une valeur ajoutée suffisante pour que ça devienne intéressant pour des clients. Ce que je veux dire, c'est que si on avait juste essayé d'avoir des très beaux bijoux avec des prix intéressants mais pas complètement décorrélés du marché, je suis pas sûre que ça aurait été suffisant, si tu veux. Donc je pense qu'il faut vraiment, si tu veux, se pousser dans ses retranchements et se dire c'est quoi ma différenciation unique. Et donc je te pose la question, Marie-Caroline, c'est quoi ta différenciation unique, c'est quoi ce qui fait que Off-Grid est vraiment, et ce fauteuil en l'occurrence, est vraiment complètement unique et dingue, et que au-delà de son design, si tu veux, personne ne, enfin, vous apportez quelque chose au monde dans le marché du luxe et du design qui est complètement différent.
D'accord. J'entends tout à fait ce que tu dis, et effectivement, ça me fait du bien de m'entendre, parce que c'est vrai que je me repose beaucoup sur justement le design de ce fauteuil qui est unique. Après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'aspect personnalisation. C'est un produit qui est très personnalisable et déclinable. Pour le moment, je m'adresse plus aux professionnels qu'aux particuliers, ce qui va très rapidement changer. Mais donc, c'est vrai que c'est plus simple de proposer une offre personnalisable à des distributeurs, à des professionnels qui vont acheter en plus grande quantité que pour des particuliers, pardon. J'ai rencontré aussi quelques difficultés dans cette démarche par rapport à l'approvisionnement des matières premières, etc. Mais voilà, c'est ce vers quoi je tends. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait que je me creuse un peu plus les méninges pour trouver une autre direction.
Disons que je suis sûre qu'il y a un fond de quelque chose, si tu veux. Mais en fait, il faut que ça soit assez radical pour que ça soit perceptible de l'extérieur. Parce que la réalité, c'est que toi, t'es dans ton business, tu le vois toute la journée. Donc, en fait, tu dis, mais attends, il y a plein de petite différence. Mais si tu veux un client lambda qui connaît pas ta marque, qui connaît pas grand chose en plus au monde du design, si jamais c'est pas, ça lui éclate pas, si tu veux, à la figure, la différence, et qui d'ailleurs il aime pas cette différence, eh bien, en fait, il va passer complètement à côté. Il va se dire, non, mais attends, pourquoi est-ce que j'irai chez Upgrid, qui est une marque complètement inconnue au bataillon, alors que je peux aller chez, je sais pas quoi, Conran Shop et compagnie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, et ça, c'est un point évidemment que je te dis à toi, mais que je dis à beaucoup d'autres personnes, parce que je pense qu'on est tous. On a tous un peu peur d'être différents, mais je pense qu'au début, si tu veux, l'intensité de la différence, le fait d'être un peu extrême, est nécessaire pour se faire remarquer. Parce que sinon, en fait, malheureusement, ça va être bien, probablement, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc, il y a vraiment un travail à faire en tant qu'entrepreneur, qui est de se poser vraiment des questions difficiles et d'y répondre de manière assez drastique. Parce que sinon, une fois de plus, le consommateur lambda ne verra pas la différence. C'est un travail psychologique à faire qui est pas évident et qui fait peur aussi, parce que souvent, être trop différent, avoir un produit trop différent, on se dit, ça va jamais marcher. Mais ce que je peux juste te dire de mon exemple avec Gemio et beaucoup d'autres boîtes que j'ai pu suivre, c'est qu'en fait, il vaut mieux être très différent au début et ensuite aller vers un peu plus, on va dire, de mainstream. Donc avoir des gens qui sont un peu atypiques au début, qui vont s'intéresser à tes produits, mais qui vont sincèrement être vraiment très très fans de toi et de cette différence sur ton produit, sur ton business model. Plutôt que d'essayer d'être un peu passe-partout d'une certaine manière et de faire juste les choses bien, un peu comme un bon élève, si tu veux. Parce que ça, malheureusement, ça va faire que le business ne va jamais décoller. Donc, en fait, en gros, si je résume, mon message, c'est de dire au début, il faut vraiment frapper un grand coup et être un peu drastique au niveau de sa différenciation pour réussir justement à vraiment, en fait, se faire remarquer. Et ensuite, après, avec le temps, quelques années plus tard, en général, ce qui se passe, c'est que les marques deviennent de moins en moins différentes, si tu veux, et vont commencer à se lisser pour plaire à un plus grand public. Mais ça se fait souvent dans ce sens-là, si tu veux. Ça se fait pas dans le sens inverse, qui est que tu commences par un truc grand public qui plaît à tout le monde, et ensuite, tu vas faire plus de différence, tu vois. C'est plutôt le chemin inverse qu'il faut prendre.
Très clair, ok. Ça résonne beaucoup, parce qu'en plus, j'ai l'impression que cette différence est très marquée. J'ai l'impression qu'il y a où les marques, donc les grandes marques qui ont réussi à se lisser et qu'on voit partout et qui sont très mainstream. Et j'ai l'impression que c'est compliqué justement. Enfin, ça fait écho à des expériences que j'ai eues. C'est compliqué de faire sa place justement sur le marché si on est entre deux un petit peu, si on essaie d'être innovateur, original, mais sans trop être tranchant peut-être.
Bah écoute, moi c'est un sujet que j'aborde pas mal dans une de mes formations qui est celle sur le persona, parce qu'en fait une de mes convictions, c'est pour se lancer le plus facilement possible, c'est de commencer par une niche. Toi, il faut que tu vois, est-ce que c'est des aficionados, tu vois, de certains matériaux, est-ce que c'est, je sais pas, des food design, et du coup qui veulent des trucs hyper pointus, hyper atypiques, je sais pas. Mais en gros, il faut que tu y réfléchisses profondément, parce que c'est beaucoup plus facile de commencer à s'adresser à une niche de personnes qui sont très spécifiques, qui sont assez mal adressées par le marché. Et ensuite, avec les années, d'étendre, si tu veux, sa clientèle à des gens plus mainstream, quitte à un petit peu dénaturer au début, si tu veux, son propos, en étant justement très très focus sur cette niche qui est un petit peu atypique. Parce que, à l'inverse, essayer de s'adresser d'une certaine manière à tout le monde tout de suite, c'est plus difficile, quoi, parce que tout le monde le fait déjà. Tu vois, tu vas être en concurrence frontale avec tout le monde. Alors que si jamais t'arrives à trouver une niche sur laquelle il y a peu de concurrence et que toi t'arrives à faire ta place parce que tu leur parles droit au cœur, eh bien, en fait, au moins, tu viendras leader dans cette niche. Et si t'es leader de cette niche, déjà, t'auras plus de chiffre d'affaires, t'auras commencé à faire grandir ton entreprise. Et donc, ça te permettra ensuite, peu à peu, d'étendre, de manière granulaire, si tu veux, tes produits, ton marketing à des personnes qui sortent de cette niche. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est beaucoup plus commencer petit et peu à peu étendre au niveau du ciblage client. Et vraiment, pour moi, la clé du succès, à moins que t'aies levé des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et même dans ces cas-là, en général, les boîtes commencent plutôt par commencer à s'adresser à des niches. Je te donne un exemple, dans le monde des assurances, Tu connais peut-être les assurances santé Alan, A-L-A-N. J'ai eu la chance d'interviewer le fondateur Jean-Charles Samuelian sur le podcast. Et en gros, ils ont commencé par s'adresser d'abord à une niche, d'une certaine manière, qui sont les freelances, les dirigeants de TPE. Donc, bon, c'est pas une niche au sens où il y en a beaucoup, mais c'est pas essayer de s'adresser à tout le marché des entreprises, si tu veux. C'est déjà de commencer par une niche très spécifique qui était mal adressée, qui sont des freelances et des entrepreneurs de petites entreprises qui savent même pas comment gérer des assurances santé et qui du coup vont aller chez Alan parce que c'est simple, que ça coûte pas cher, etc. Bah, c'est un peu le même raisonnement si tu veux, et je te parle d'Alan pourquoi, parce qu'en fait Alan avait quand même levé déjà à ce moment-là beaucoup d'argent, littéralement des dizaines de millions d'euros. Donc même une entreprise qui avait beaucoup de moyens ne s'est pas dit je vais y aller frontal et essayer de commencer à être en concurrence avec AXA et la Terre entière. Non, ils ont finalement pris un chemin de traverse pour ensuite, j'imagine, plus tard essayer d'ouvrir si tu veux sur d'autres supports et d'autres ciblages surtout.
D'accord. Très bien. Bah, je vois bien le parallèle et c'est très intéressant et je pense que je m'étais un petit peu perdue parce que on peut avoir tendance à se dire qu'on peut pas bah, trop rester dans le final, scolaire. Ou...
Ouais. Et puis je suis désolée, je t'ai interrompu, c'est pas cool. C'était juste parce qu'en fait moi-même je me remets à la place de quand j'ai créé Gemio. C'est qu'en fait au début, comme tu t'adresses à toi-même et que t'es peut-être pas toi dans une niche, toi t'es peut-être assez mainstream au final et c'est très bien.
Exactement.
Bah en fait tu te dis bon bah moi j'ai un besoin qui est pas très très bien traité par les grandes marques actuellement, mais qui n'est pas non plus un truc ultra pointu, hyper différent et qui fait un peu peur. Et donc voilà, mais malheureusement en fait, tu reviendras un jour à un client qui est proche de toi, mais tu ne peux pas commencer par là.
Complètement, c'est complètement écho. Et donc si je peux te demander, toi, quelles ont été tes étapes? Est-ce que tu es passé par une étude de marché? Est-ce que tu as défini ta cible en amont? Est-ce que tu l'as découverte en commençant à développer tes produits et ton offre?
Alors, très bonne question. Moi, je t'avoue que j'étais beaucoup moins sophistiquée que je le suis maintenant. Donc, en fait, je l'ai appris à la dure en me cassant un peu les dents. La réalité, c'est que nous, quand on a lancé Gemio, on l'a fait. Alors, il se trouve qu'on avait une différenciation forte, mais nous, notre différenciation que je t'évoquais plus tard, qui était qu'on fabriquait les bijoux sur mesure, contrairement à tous les joailliers en réalité qui ont du stock, c'est qu'en fait, comme on n'avait pas d'argent, en fait, on a eu une contrainte qui est qu'on ne pouvait pas avancer l'argent du stock. Et donc, il a fallu trouver, si tu veux, un système un peu sioux pour réussir à créer des bijoux pour nos clients sans qu'on ait besoin de payer des dizaines de milliers d'euros de stock. Et donc, en fait, l'innovation, si tu veux, elle est venue d'une contrainte en réalité. Et c'est d'ailleurs souvent de ça que viennent les innovations. Après, au niveau du ciblage client, en fait, ce qui s'est passé est assez drôle, c'est que moi, j'avais une vision, et ça, c'est très fréquent, j'avais une vision de qui serait mon client, qui était quelqu'un un peu comme moi, si tu veux, qui cherchait un bijou de qualité, qui voulait plus de choix, qui voulait pas forcément payer le prix de la place Vendôme, mais qui voulait une belle qualité made in France, etc. Et donc, j'ai pensé que ça serait ça, notre offre et notre clientèle initiale, mais ça n'était pas du tout le cas. Quand on a lancé Gemio, les premiers clients qui sont venus à nous étaient des connaisseurs de pierres précieuses, parce qu'en fait, on était la seule marque à proposer tout un panel de pierres aussi large que celui qu'on proposait, à savoir, il y en avait 15 dès le départ, des pierres un peu inconnues, tu vois, comme la tanzanite et la tsavorite, parce que je m'étais dit, c'est sympa, c'est la personnalisation, ça laissera plus de choix, et puis voilà, je trouvais ça cool, mais tout en étant moi-même assez mainstream. En fait, les personnes que j'ai attirées, c'est typiquement une niche qui cherchait de la tanzanite, de la tsavorite, de l'aigle marine, des pierres difficiles à trouver, et qui, en tapant sur Google, très honnêtement, ben, finissait par tomber chez nous et donc passer commande chez nous. Et donc, je me suis rendu compte, mais c'est arrivé de manière complètement, si tu veux, pratique, quoi, parce que c'était pas quelque chose qui était voulu. En fait, je me suis rendu compte que mon persona principal, c'est-à-dire que ma cible de clientèle n'était pas du tout celle que je pensais, et que c'était des connaisseurs qui cherchaient des pierres atypiques. Et ensuite, donc ce personnage l'ai travaillé, ça nous a permis d'ailleurs de commencer à faire du chiffre d'affaires, et ensuite, avec le temps, on a commencé à élargir nos gammes, et c'est seulement plus tard qu'on a commencé à faire plus de chiffre d'affaires sur une pierre qui est moins originale, qui est le diamant, mais ça a mis, je dirais, 2 ou 3 ans avant qu'on commence à s'adresser au marché du diamant, tu vois, qui est en fait 95% du marché. Nous, on a commencé par s'adresser au marché des pierres de couleur, parce que personne ne le faisait, tout simplement. Et c'est pas arrivé de manière, je vais pas te mentir, c'était pas de l'intelligence, c'était un gros coup de bol. Ça arrive, il en faut savoir saisir l'opportunité. Mais l'intelligence qu'on a eue, c'est de s'en rendre compte, et donc ensuite de le comprendre. Et donc maintenant, avec le recul, c'est pour ça que je peux me permettre de te donner ce petit conseil. C'est ne commence pas par le diamant, si je puis dire. Commence par la tsavorite, et qui est une pierre donc complètement inconnue. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas commencer à avoir des fans qui vont en parler autour de toi, qui vont acheter, qui vont recommander. Alors que parler du diamant, si tu veux, si tu as pas une différenciation très forte parce que ton père était diamantaire de chez Diamantaire et que tu as les meilleurs prix du marché, etc., ça va être difficile, tu vois. Donc, mieux vaut commencer par une niche. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et avec le temps, on a élargi au diamant, ensuite à des bijoux, même tout métaux, etc. Et donc, tout ça pour dire que vraiment, notre cible, elle s'est énormément élargie avec le temps. Mais il a fallu commencer par le commencement et donc par vraiment de la petite niche dès le démarrage.
Bien sûr. Ok, ben
c'est quelque
très
chose,
clair.
Sans vouloir te vendre ma soupe, Marie-Caroline, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans notamment la formation que j'ai faite sur le persona, parce que tu sais que je propose des formations justement pour aller un petit peu plus loin que ces leçons. Et sincèrement, si ça t'intéresse, je veux pas une fois de plus paraître vendeuse, mais c'est juste pour te dire que si tu souhaites creuser ce sujet, je pense que cette formation pourra t'intéresser parce qu'en fait, elle va te permettre justement de vraiment précisément creuser qui est ton persona et le traduire en éléments concrets que tu vas pouvoir ensuite travailler marketingement parlant. Donc ça peut être un bon plan, sachant qu'en plus, juste pour te le dire quand même, si jamais tu n'es pas satisfaite, tu pourras être remboursée. C'est très peu le cas, mais ça arrive. Et donc, t'as pas énormément de risques à prendre. Donc, si le sujet t'intéresse, sache en tout cas que cette ressource existe. Je l'ai faite justement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, ne savaient pas, en fait, ce que c'était qu'une niche, ne savaient pas où la trouver, ne savaient pas, quels étaient les clients de cette niche, les leurs et comment savoir quelle est leur niche. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation.
Eh bien, j'ai écouté ton épisode sur le persona et effectivement, ça m'a donné très envie. Et donc, je donnerai sûrement suite à cette formation.
Mais écoute, déjà, fais-le en temps et en heure quand tu seras prête parce que ça nécessite un peu de travail, tu vois, quand même. C'est du travail de réflexion, donc il faut être prêt à le faire. Mais sache en tout cas qu'elle est là, qu'elle t'attend et qu'elle sera là pour très longtemps.
C'est parfait, mais c'est sur le calendrier.
Bon, très bien. Écoute, en tout cas, merci Marie-Caroline pour ta question. Je te souhaite évidemment beaucoup de chance parce qu'il en faut pour ton aventure. Une fois de plus, donc si on veut te retrouver, vous avez un site internet ou pas encore avec Offgrid?
Oui, donc c'est Offgrid en minuscule tout attaché -6 Ecodesign et sinon la même chose sans tirer sur Instagram.
Ça marche à Instagram, bien sûr, on mettra ça aussi. Bon, super Marie-Caroline, en tout cas chapeau pour ce que tu fais et puis je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Pauline, merci de m'avoir reçu. À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.